J'aimerais parler du sujet de l'idolâtrie. C'est un sujet qui est très controversé chez les chrétiens parce qu'il y a deux branches parmi les chrétiens. Il y a les chrétiens évangéliques et la branche dure qu'on appelle les protestants. Beaucoup de chrétiens évangéliques ne sont pas protestants. C'est un peu comme l'islam. Il y a beaucoup de musulmans qui ne sont pas des terroristes. Il y a une branche dure. Comme dans toutes les religions, il y a une branche extrémiste. Puis entre ce que la Bible enseigne et entre la position extrême de certains protestants, il y a toute une marge. Alors c'est un sujet qui est très mal connu, mal compris, parce que n'empêche que le commandement concernant l'idolâtrie a été donné il y a 3 500 ans à l'autre bout de la planète, dans un contexte culturel extrêmement différent du nôtre. Alors je vais, par la grâce de Dieu, remettre toutes les choses dans leur juste perspective. Et quand je vais avoir terminé, tout le monde va savoir ce qu'est l'idolâtrie, puis qu'est-ce que ce n'est pas. L'art sacré, par exemple, les peintures, l'art sacré est-il de l'idolâtrie? Est-il idolâtre de porter une croix? Une statue est-elle obligatoirement une idole? La confusion vient de ce que le protestantisme a donné une autre définition que celle que nous retrouvons dans la Bible. La réforme est arrivée avec une interprétation toute nouvelle de l'idolâtrie. Je ferai ressortir clairement ce qu'était l'idolâtrie à l'époque où Dieu l'avait interdit, et je ferai un survol de l'idolâtrie au temps de la première Église. Premièrement, il faut que je dise ceci. Je ne suis pas catholique, mais je ne suis pas protestant non plus. Je suis un chrétien évangélique. Quelqu'un m'a dit un jour, Jocelyn, pourquoi tu défends l'Église catholique? Mais non, c'est pas vrai. Mon but, ce n'est pas de condamner ou de défendre, mais d'éclairer le sujet. Aujourd'hui, il semblerait qu'il y a autant de définitions de l'idolâtrie qu'il y a de chrétiens. Qu'est-ce que l'idolâtrie selon la Bible? Par la grâce de Dieu, c'est ce que je vais faire ici. On m'a accusé dans le passé de défendre l'Église catholique. Ben, c'est pas vrai. Je défends la vérité biblique. Puis si au passage l'Église catholique a raison sur quelque chose, ce n'est pas ma faute. Je rends seulement à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Un chrétien se doit d'être une personne équitable, juste et intègre, qui n'a pas de parti pris. Aujourd'hui, quand on donne raison aux catholiques sur quelque chose, tout le monde lève les bras en l'air et sont scandalisés. Écoutez, une Église qui a tort sur tous les points, c'est impossible. Puis une Église qui a raison sur tous les points, c'est impossible également. À écouter parler certains chrétiens, ils donnent l'impression de posséder la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Et ils méprisent le catholique comme s'ils nageaient tous dans l'erreur, dans toute l'erreur et rien que l'erreur. C'est une attitude qui est propre juste. Cette attitude me répugne. Il y a en effet, chez les protestants, beaucoup de gens rebelles, des gens arrogants, auxquels il faut fermer la bouche. Alors, en écoutant ce message, vous allez être confronté à vous-même et à ce que la Bible dit. Si vous aimez la vérité biblique, vous allez être servi. Mais si vous aimez seulement vous bercer d'illusions et de traditions d'hommes, de traditions qui vous ont été léguées par l'école de pensée protestante, vous n'allez pas aimer ce que vous allez entendre. Parce que Jocelyn Amadeus enseigne la Bible, rien que la Bible et toute la Bible. Amen. L'idolâtrie, c'est le gros argument contre l'Église catholique. La moindre petite statuette de Jésus, la moindre petite image du Christ, ou la plus petite croix suspendue au mur, et le protestant crie à l'idolâtrie criminelle et condamne les gens au feu éternel. La définition luthérienne de l'idolâtrie n'est pas biblique. Les doctrines luthériennes ne sont pas des doctrines bibliques pour la majorité, mais un ramassis de doctrines anti-catholiques. La haine du catholique est la base de toute la théologie luthérienne. Il n'est donc pas très sage d'étudier la Bible à l'école de quelqu'un qui a la haine pour mobile. Là où il y a la chair, il n'y a pas de lumière. Celui qui hait son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. 1 Jean 2,11. Il y a trois différentes conceptions de l'idolâtrie. Il y en a une qui nous vient de la Réforme protestante, une autre de la superstition et une autre de la Bible. Plusieurs inventent n'importe quoi ou ajoutent toutes sortes de choses. Soyons fidèles à la parole de Dieu. Alors, par la grâce de Dieu, je vais faire de la lumière sur le sujet une bonne fois pour toutes. Ensuite, vous saurez qui condamner et quoi condamner et qui ne pas condamner. La plupart des choses que nous appelons idolâtrie n'en est pas, tandis que beaucoup d'autres le sont, mais ne sont pas condamnés. Alors, mon point numéro 1, quelle est la définition générale de l'idolâtrie? Premièrement, l'idole, c'est une chose à laquelle on se dévoue, et que l'on a placé soit à côté de Dieu ou au-dessus de Dieu. Ou c'est quelque chose de mauvais que l'on sert à la place de Dieu ou en même temps que Dieu. C'est un péché auquel on a donné la première place dans notre vie. C'est un mal qui remplit toutes nos pensées et nos efforts. L'idolâtrie est une obsession à suivre des voies contraires au commandement de Dieu. L'idolâtrie, c'est placer un péché sur le trône de notre cœur et lui donner la première place qui devrait revenir au Seigneur. L'idolâtrie est toujours quelque chose qui est contraire au christianisme. Par exemple, la cupidité, la promiscuité sexuelle, la sorcellerie et toute autre obsession contraire aux mœurs chrétiennes. Voilà ce qu'est, selon la Bible, l'idolâtrie pour nous qui vivons sous la Nouvelle Alliance. L'idolâtrie produit donc une coupure de la communion avec Dieu. Si ce que vous qualifiez d'idole ne produit pas cette coupure de Dieu, cela n'est pas une idole. La Grande Réforme a essayé d'associer l'idolâtrie de l'Ancien Testament au statut qui se trouvait dans les Églises catholiques. Mais même si on essaie d'y trouver des ressemblances, des rapprochements, il ne faut qu'un petit coup d'œil sous la surface pour réaliser qu'il ne s'agit pas de la même chose du tout. Même si la Réforme a essayé très fort de faire revivre le péché d'idolâtrie 3000 ans plus tard, la vérité c'est que nous ne vivons plus à l'époque archaïque de l'Ancien Testament. Ce genre d'idolâtrie n'existe plus sur la terre. Gloire à Dieu. Ce qui m'amène à mon point numéro 2, regardons ce qu'était l'idolâtrie sous l'Ancien Testament au moment où Dieu l'a condamnée, pour voir dans quel contexte dans lequel les Hébreux vivaient quand Dieu leur a donné le commandement de ne pas servir d'autres dieux. Exode 20, 2 à 5. « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Entre parenthèses, je pose une question ici. Est-ce qu'une statue de Jésus est la représentation d'un autre Dieu? Non, Jésus n'est pas un autre Dieu. « Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. » OK, pourtant Dieu a dit lui-même dans la Genèse qu'il regarda tout ce qu'il avait créé et voici, tout était très bon. Ce ne sont pas les oiseaux du ciel qui sont méchants, ni les animaux de la terre ou les poissons de la mer. Ce sont les cultes que les païens en avaient faits. Ces cultes exigeaient la pratique de péchés très graves et le rejet de tous les commandements de Dieu. C'était la base de l'idolâtrie, le rejet des commandements, un mode de vie contraire aux commandements de Dieu. Le premier commandement était une mise en garde contre les dangereux cultes démoniaques des dieux babyloniens. Je dis dangereux parce qu'il s'agissait de sciences occultes et de communion avec les démons cachés derrière ces idoles qui les représentaient. Ces esprits malins pouvaient posséder les adhérents de leur culte et les forcer ensuite à commettre toute espèce d'impureté sexuelle, de meurtre, de toutes sortes de choses criminelles qui étaient en abomination au Seigneur. Et non seulement ça, mais ces cultes détruisaient la vie et les familles de ceux qui pratiquaient ces choses. On connaît de quelle cruauté l'ennemi traite ses propres serviteurs. Si vous avez déjà lu des livres à propos du satanisme, des sorcières ou des sorciers qui sont sortis de ce milieu et qui sont maintenant devenus chrétiens, ils vont vous dire qu'ils étaient torturé par les esprits mauvais qu'il servait. Par exemple, en Matthieu 15, 21 et 22, Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées. Lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Le territoire de Tyr et de Sidon, ça se trouve au nord, dans la tribu d'Azer, aux confins de la Phénicie. Leurs habitants étaient idolâtres. On les appelait tantôt des Cananéens parce qu'ils descendaient des nations cananéennes. Pourquoi y avait-il tant de démons à chasser en Israël au temps de Jésus? Parce que c'était une génération « adultère », entre guillemets, c'est-à-dire idolâtre, qui servait d'autres dieux, qui servait des dieux cananéens. La récompense de servir les démons, c'est d'en être tourmenté. Il est fruit d'une véritable idolâtrie, c'était souvent la possession de leurs propres enfants. Moi, j'ai jamais vu une personne tomber, se rouler par terre, écumer de la bouche, se jeter dans le feu et lancer des blasphèmes pour avoir porté une croix dans son cou. Il faut arrêter avec cette folie de voir de l'idolâtrie partout. Tenez-vous-en à ce qui est biblique et arrêtez d'inventer toutes sortes d'imbécilités. Certains chrétiens sont tellement aveuglés de préjugés anti-catholiques qu'ils ne savent plus quoi inventer pour faire la guerre à cette Église. Je dis que c'est indigne d'un enfant de Dieu. Dieu ne ratifie pas vos haines religieuses, ni vos petites croisades personnelles. Certains chrétiens condamnent leurs parents catholiques comme idolâtres, parce qu'ils ont une image de Jésus ou une croix sur un mur dans la maison. De grâce, les amis, ne faites pas ça. Ça n'a aucun rapport, ni de près ou de loin, avec la véritable idolâtrie dont parle la Bible, et vous allez éloigner vos parents du Seigneur et les rendre inatteignables par la suite. Le premier commandement nous révèle le grand amour paternel de Dieu pour son peuple. Ce premier commandement était une paternelle mesure de protection contre les ennemis invisibles qui détruisaient la vie des hommes sur la terre. Il me touche le cœur de constater que l'amour de Dieu a premièrement et avant tout voulu placer ses enfants dans un milieu saint, où ils seraient à l'abri de toutes ces créatures maléfiques, invisibles, qui polluaient l'atmosphère à l'époque. Il y a 3500 ans, le contexte historique au temps de Moïse était très différent du nôtre. Il y a 3500 ans, l'Église catholique n'existait pas. On est d'accord là-dessus? La Réforme a pris un texte biblique vieux de 3000 ans, l'a transporté dans le temps et a essayé de l'appliquer à l'Église catholique, ce qui est absolument contraire à toutes les lois de l'interprétation biblique. En interprétation biblique et en exégèse, il est absolument nécessaire de tenir compte des contextes historiques et culturels, sinon on arrive à toutes sortes d'interprétations absurdes. Plus de 3000 ans après que le premier commandement a été donné, M. Luther, dans sa querelle avec le pape de l'époque, décide de tout diaboliser dans l'Église. Il fait du jugement à l'emporte-pièce. Il catégorise les images de Jésus, des saints, des anges, comme étant des idoles. Du coup, ce qui signifie que tous les catholiques étaient des idolâtres et allaient en enfer. En lisant la Bible, Martin Luther, c'est dommage, n'avait pas le souci de découvrir la vérité, mais le souci de diaboliser l'Église catholique. Ça a été sa grande mission, la mission de sa vie, ça. Lire la Bible avec le cœur rempli de haine et de rancœur conduit toujours à des interprétations plus fausses les unes que les autres. La véritable idolâtrie, à l'époque où Dieu a donné le premier commandement, impliquait des interactions avec des prostituées qui étaient dans les temples de ces idoles. Il y avait aussi des sacrifices d'enfants et l'adoration de créatures démoniaques que représentaient ces idoles. Les démons se manifestaient en donnant des transports prophétiques à leurs prêtres. Par-dessus tout ça, il y avait des pratiques occultes, de la magie, de la sorcellerie, etc. Vous conviendrez avec moi qu'il n'y a rien de commun entre cette idolâtrie et une image de Jésus qu'un chrétien, quelque part, a épinglé sur un mur. Il faut arrêter avec cette folie-là de voir l'idolâtrie partout. Il faut arrêter avec tous ces scrupules et toutes ces superstitions. Quand comprendrons-nous que nos doctrines extrêmes sont des scandales pour le monde? OK, Deutéronome 27, 15. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte, abomination de l'Éternel. Deutéronome 4, 16. Une représentation de quelque idole, de la figure d'un homme ou d'une femme. Basé sur ces versets, lorsqu'on voit une petite statue de Jésus ou d'un saint ou d'un ange, le protestant crie à l'idolâtrie. Mais faites une recherche sur le net. Cherchez statue de Martin Luther. Vous allez voir de nombreuses photos représentant des dizaines de grandes statues en bronze de Martin Luther répandues dans toute l'Europe. C'est bizarre, ce sont les protestants eux-mêmes qui font ces statues, mais le protestant ne crie pas à l'idolâtrie. Les statues, c'est un péché seulement chez les catholiques, mais pas chez eux. La pensée protestante est un peu illogique quelquefois. Ils condamnent les statues des saints, mais pas les statues de Martin Luther ou de Calvin, ou autres réformateurs. Quand il s'agit de leur saint patron, ce n'est plus l'idolâtrie. Qu'est-ce que c'est que la définition de l'hypocrisie selon la Bible? C'est de condamner chez les autres des péchés que l'on commet soi-même. L'apôtre Paul a dit, en Romains chapitre 2, « Pourquoi juges-tu ton frère, toi qui commets les mêmes choses? » Si toutes les statues de personnages sont automatiquement des blasphèmes idolâtres, pourquoi l'Europe est-elle remplie de statues en fonte des réformateurs? Est-ce que la Bible ne dit pas clairement « Tu ne feras pas d'image en fonte »? Si c'était des statues de papes qu'il y avait dans l'Europe, le protestant crierait à l'idolâtrie de tous ses poumons. Mais quand c'est des statues de Martin Luther ou d'autres réformateurs, c'est correct. Proverbe 11.1. La balance fausse est en horreur à l'Éternel. Proverbe 20.23. L'Éternel a en horreur deux sortes de poids. Tout ça nous enseigne quelque chose de très important, c'est qu'il y a une différence entre une statue et une idole. Voilà, c'est ça que je veux que les chrétiens voient et reconnaissent enfin. À la vérité, là, toute cette histoire de statues et d'idolâtrie, c'est une grosse blague. Il n'y a pas plus d'idolâtrie dans les statues du catholicisme qu'il y en a dans les statues du protestantisme. Je crois que chez les protestants, la haine du catholique est si forte qu'elle l'emporte sur le bon sens. Les protestants vont jusqu'à des extrêmes doctrinales ridicules pour réussir à diaboliser absolument les cathos. Frères et sœurs, il faut arrêter avec ces guéguerres d'église. Moi, j'ai beaucoup œuvré en milieu catholique, puis je rends le témoignage qu'il se trouve des légions de très belles âmes qui aiment véritablement le Seigneur tout autant que nous. En 1 Jean 2, 29, il est dit « Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. » Mais comme il est difficile pour l'orgueil de reconnaître la présence du Seigneur chez les autres. Comme on aime se croire seul dans la vérité. Je répète encore que l'idolâtrie à l'époque du Deutéronome, c'était l'adoration de démons dont on faisait des statues. Ces démons exigeaient des sacrifices humains, des bébés ou des enfants. Leurs prêtres poussaient les fidèles aux macérations physiques avec des épées ou autres instruments tranchants. On organisait des orgies et des beuveries. Il y avait des prostituées qui entraînaient le peuple dans tous les vices. Il y avait également des pratiques très occultes et de sorcellerie. Tout menait à des pratiques contraires à la sainteté, contraires à la nature et contraires à tous les commandements de Dieu. C'est cette idolâtrie que Dieu a défendue et condamnée dans le premier commandement. Ça n'a absolument aucun rapport avec une statue de Jésus sur une table ou une croix sur un mur. Soyons sérieux. Dans le temple de Dagon, par exemple, il y avait une énorme statue de bronze dans laquelle on allumait un feu à l'intérieur jusqu'à rendre le métal ardent. Puis des parents venaient apporter leur bébé et le déposaient dans les bras de la statue de bronze chauffée à blanc. L'enfant était brûlé vif devant les parents en offrande à l'idole. L'enfant rôtissait littéralement devant les yeux de ses parents. Ça, c'était l'idolâtrie. Dagon était une véritable idole. Est-ce qu'une statue de Jésus vous a jamais demandé de sacrifier vos enfants? Est-ce qu'une croix sur un mur vous a déjà demandé d'offrir un bébé en sacrifice? Il y avait également des temples consacrés à la déesse Ishtar, qu'on appelait la reine du ciel chez les Babyloniens. Les adeptes de ce culte s'adonnaient à la fornication avec les prostituées, encore une fois, et dont la seule fonction était d'enseigner et d'entraîner ses adeptes en toutes sortes de perversions sexuelles contre nature. Est-ce qu'une statue de Marie demande de vous que vous pratiquiez la fornication? Certains protestants font un parallèle entre Marie et la mère de Jésus et cette déesse, et ils disent qu'il s'agit de la même personne. J'ai jamais vu de prostituée danser nue devant l'autel dans une église catholique, moi. Arrêtons de faire des parallèles méchants et injustes, c'est tellement indigne d'un chrétien. On sacrifiait des bébés vivants pour être brûlés au feu. On appointait des prostituées dans les temples pour récompenser la fidélité à ces démons-là et pour entraîner et pervertir le peuple. On leur enseignait à faire des sacrifices, à se mutiler en se faisant des incisions sur le corps avec des lames. Voilà ce que Baal exigeait. Je n'ai jamais vu nulle part qu'un pape ait jamais demandé des choses semblables aux catholiques. Alors faut faire attention avec nos rapprochements. Ne faites pas de rapprochements injustes. Comprenez ce que la Bible dit. N'allez pas au-delà de ce qui est écrit. L'adoration de Baal s'accompagnait de rites lascifs. En 1 Roi 14, 23-24, il est écrit « Ils se bâtirent eux aussi des hauts lieux, avec des statues et des idoles sur toute colline élevée et sous tout arbre vert. Il y eut même des prostituées dans le pays. » Ils imitèrent toutes les abominations des nations. En Jérémie 19, 4 et 5, il est écrit « Ils ont bâti des hauts lieux à Baal pour brûler leurs enfants au feu en holocauste à Baal. » En 1 Roi 18, 28, « Ils crièrent à haute voix et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances jusqu'à ce que le sang coule sur eux. » Osée 9, 10 « Vos pères sont allés vers Baal-Péor. Ils se sont consacrés à l'infâme idole. Ils sont devenus abominables comme l'objet de leur amour. » Voyez-vous, la vraie idolâtrie rend abominable. L'idole rend son adorateur semblable à elle dans toute sa conduite. La définition du dictionnaire du mot « abominable » est le suivant. « Il se dit par exagération de tout ce qui est mauvais. » Synonyme du mot abominable, horrible, atroce, effroyable, hideux, épouvantable, exécrable, monstrueux, affreux, infâme, dégoûtant, révoltant, macabre, cruel, barbare, odieux, ignoble, repoussant, laid, noir, abject, menaçant, haïssable et méprisable. Maintenant, est-ce qu'une statue de Jésus rend son possesseur cruel, monstrueux, haïssable, dégoûtant, etc.? Attention en accusant certaines personnes d'idolâtres de ne pas condamner des innocents, parce que c'est nous qui risquons de devenir abominables aux yeux du Seigneur avec nos jugements injustes. Beaucoup appellent idoles des choses qui ne le sont pas à la lumière des Écritures. Ajustons nos croyances à ce que dit vraiment la Bible et non à ce que le protestantisme nous a dit de croire. Maintenant, à la lumière de ce qu'on vient de voir, je conclus qu'il n'y a pas de véritable idolâtrie chez les catholiques. Les prostitutions, les orgies, les sacrifices d'enfants, moi j'en ai jamais vu dans aucune église catholique. Pour comprendre Exode 22 à 5, qui est le premier commandement, il faut le laisser dans son contexte historique. Les dieux étrangers en question étaient des statues de démons et non des statues catholiques. Ces démons encourageaient tous les vices contre nature, beuverie, orgie, sorcellerie, nécromancie, sacrifice humain, automutilation, toutes sortes de choses abominables semblables. On comprend pourquoi Dieu a ordonné de ne pas se prosterner devant ces dieux pour les servir. Le premier commandement n'a rien de commun avec les statues de Jésus, de Marie, des prophètes, des anges ou des saints. Martin Luther s'amène, 3000 ans plus tard, accuse l'Église catholique d'idolâtrie, c'est ce qui est totalement ridicule à la lumière des Écritures. Il n'y a pas plus d'idolâtrie chez les catholiques que dans votre salle à manger. Pour qu'il y ait idolâtrie, il faut qu'il y ait adoration et service rendu à un démon et dépravation de mœurs. Il y a de nos jours ce que j'appelle la statue cultuelle. Je n'ai pas dit culturelle, mais cultuelle. Il y a à peu près que chez les hindous et chez les bouddhistes qu'on rencontre encore ce genre de choses aujourd'hui. Il s'agit d'une idolâtrie quand même très douce, d'une idolâtrie très bénigne, car il n'y a pas de sacrifice humain, ni de sorcellerie, ni rien de semblable. En fait, il ne s'agit pas d'idolâtrie vraiment, mais d'ignorance. Ce qui est plutôt fait pour nous inspirer de la pitié, de la compassion, et non de l'indignation. Quand Dieu a ordonné à Moïse de fabriquer cette image en fonte, je parle du serpent d'airain, est-ce que ce n'était pas un péché selon la loi? Deutéronome 4,18 dit « De peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelque idole, la figure d'une bête qui rampe sur le sol. » Moïse fait une représentation d'un serpent. Il fait exactement le contraire de ce que Dieu avait ordonné. Pourtant, c'est Dieu qui lui dit de le faire. Et ça va plus loin. En Jean 3, 14-15, Jean dit ceci, « Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Est-ce que Dieu a transgressé son propre commandement? Est-ce que Dieu contredit sa propre parole? Est-ce que Dieu est en train de pousser Moïse à l'idolâtrie? En plus, Jean dit ici que ce serpent était une image du Christ sur la croix. Waouh! Pourquoi l'apôtre Jean ose-t-il comparer un serpent en fonte au Christ? Est-ce que c'est pas un blasphème épouvantable? Si, comme le disent les protestants, toutes les statues sans distinction sont des idoles, alors Dieu et Moïse seraient eux-mêmes les plus grands idolâtres qu'il n'y ait jamais existé. Mais vous l'aurez compris, arrivé à ce point, s'il n'y a pas d'adoration, de culte démoniaque et de dépravation morale, il n'y a pas d'idolâtrie. Un autre exemple, Exode 25, 40. Moïse fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. « Aie soin, lui fut-il dit, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. » C'est-à-dire faire un simulacre, une représentation des choses qui sont dans le ciel. Le tabernacle terrestre que Moïse a construit était une réplique du vrai tabernacle céleste où Dieu habite dans le ciel. Est-ce que c'était pas supposé être interdit de faire des représentations des choses qui sont dans le ciel? Si on s'en tient à la lettre de la loi, oui, mais pas quant à l'esprit. Il y a toujours un danger, frères et sœurs, à observer un commandement quel qu'il soit, sans savoir pourquoi, comment et jusqu'où il faut l'observer. Une observation rigide et scrupuleuse de la loi, ça crée des monstres. On le voit sans cesse dans les personnes des pharisiens. Les chrétiens d'aujourd'hui voient une statue, la statue d'un ange dans une église catholique, ils crient à l'idolâtrie. C'est ce qu'on enseigne dans les écoles bibliques, n'est-ce pas? C'est ce que votre pasteur a appris, et c'est ce qu'il vous a enseigné à son tour. Alors, c'est ce que vous enseignez aux autres à votre tour. Le jeune chrétien n'est pas capable de penser par lui-même. Il ne fait que répéter ce qu'on lui a enfoncé dans le crâne. On sait qu'au-dessus de l'arche s'élevaient deux statues d'anges, deux chérubins aux ailes déployées. En Hébreux 9,5, il est écrit « Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. » Alors je pose une question, est-ce que Dieu a induit Moïse en idolâtrie, encore une fois? Est-ce que ça ne va pas directement à l'encontre du premier commandement? Si Dieu transgresse ses propres commandements, est-ce qu'il va être obligé de se jeter lui-même en enfer? La réponse est toute simple, une statue ne devient une idole que si elle entraîne les gens dans le péché. Mais si elle inspire la gloire de Dieu, comme ces anges-là, eh bien, ces statues sont sanctifiées. Si les péchés d'idolâtrie d'avoir des statues d'anges à la maison, pourquoi Dieu lui-même en a dans son tabernacle? Est-ce qu'on ne va pas un peu trop vite en besogne en condamnant les catholiques? Ils ont le droit d'avoir des statues dans leurs églises, tout comme les Israélites avaient le droit d'en avoir dans le tabernacle. C'est nous qui interprétons les Écritures avec trop d'étroitesse. Vous savez, les sales catholiques On voudrait tellement trouver une raison de tous les noyer, de tous les envoyer en enfer. C'est bien dommage, mais le protestant va devoir trouver de meilleurs versets et de meilleurs arguments parce que celui de l'idolâtrie ne tient pas la route selon la Bible. En 1 Roi 7, 25, Salomon fabrique une mer d'airain qui était déposée et supportée par 12 bœufs. Tout ça s'était fait en fonte. Dieu avait pourtant dit à Israël de ne pas fabriquer de figures d'animaux. Par contre, ces bœufs, on ne les adorait pas. Alors, ils n'avaient pas valeur d'idole. Quand Moïse a fait une image en fonte d'un serpent, ce n'était pas de l'idolâtrie, car les gens ne l'adoraient pas et ils ne se prostituaient pas, il n'y avait pas de culte diabolique derrière. Et quand les catholiques placent des statues dans leurs églises, les gens ne se jettent pas dans des cultes sataniques non plus. Pour qu'il y ait idolâtrie, il faut qu'il y ait un culte quelconque qui encourage et pousse les gens dans tous les péchés, dans tous les excès. C'est très important à comprendre ça, mes amis. Salomon a érigé des statues de chérubins gigantesques dans le temple, 10 coudées de hauteur et 10 coudées de largeur. Pourquoi le Seigneur ne l'a pas foudroyé? Parce que ces statues n'étaient pas des idoles. Elles n'étaient pas des idoles parce qu'elles n'induisaient pas en péché. Au contraire, ces statues d'anges étaient des choses saintes, sanctifiées. Ils inspiraient la crainte de Dieu et ils démontraient la gloire de Dieu. Toute statue est sanctifiée quand elle sert à un but édifiant. C'est excessivement important, je le redis. Toute statue est sanctifiée quand elle sert un but édifiant. Une image ou une statue n'est une idole seulement lorsque celle-ci remplace le Seigneur. Une idole est le fruit d'une rébellion intérieure du cœur contre Dieu. Ainsi, le serpent d'airain, loin d'être une idole contre le Seigneur, était au contraire une image qui glorifiait le Seigneur, puisqu'en le regardant, les gens étaient guéris. Saviez-vous qu'il y avait également des statues dans le tabernacle au temps de David? David n'était pas du tout un idolâtre, vous le savez. Psaume 74, 5 à 7. On les a vus, pareils à celui qui lève la cognée dans une épaisse forêt. Et bientôt, ils ont brisé toutes les sculptures à coups de hache et de marteau. Ils ont mis le feu à ton sanctuaire. Ils ont abattu, profané la demeure de ton nom. Il s'agissait probablement de statues représentant des anges ou des prophètes du passé, tout comme on retrouve des statues des saints chez les cathos dans leurs églises. Les sculptures dans le tabernacle étaient regardées comme des choses saintes par David et non comme des idoles. Les détruire était ici considéré par David comme un sacrilège attristant. Il déplore avec tristesse qu'elles aient été abattues. Jésus a dit « Tout royaume divisé contre lui-même ne pourrait subsister » et que Satan ne pouvait chasser Satan. Le diable ne détruit jamais ce qui lui appartient, mais seulement ce qui appartient à Dieu. Ces statues qui avaient été détruites par les ennemis d'Israël étaient des choses saintes. C'est pour ça que les ennemis de Dieu les ont détruites. Regardons en Juges chapitre 17 maintenant. « Il y avait un homme de la montagne d'Éphraïm nommé Micha. » Il rendit à sa mère les 1100 cycles d'argent, et sa mère dit, « Je consacre de ma main cet argent à l'Éternel, afin d'en faire pour mon fils une image taillée et une image en fonte. » Il s'agit ici d'un téraphim, et non d'une idole païenne diabolique. Tout ce que l'on consacre au Seigneur est sanctifié par le Seigneur, même une statue. En 1 Samuel 21:9, il est écrit, le sacrificateur Achimélec répondit, « Voici l'épée de Goliath, le Philistin, que tu as tué dans la vallée du Térébinthe. Elle est là, elle est enveloppée dans un drap derrière l'éphod. » Un éphod, c'est une statue. Le sacrificateur Achimélec était un homme de Dieu intègre, pas un idolâtre. Les éphods qu'il y avait chez lui n'avaient pas valeur d'idole, mais de louange au Seigneur. Elle servait un but décoratif et édifiant qui sanctifiait le lieu, ce qui correspond parfaitement aux différents symboles, images, sculptures, peintures ou statues chez les cathos dans leurs églises ou chez les orthodoxes. Toutes ces choses sanctifient au contraire leurs églises. Il est aussi question des téraphimes. Par exemple, dans le livre de Samuel, Michal trompe les hommes de Saül et leur fait croire que David était au lit, malade, alors qu'elle avait placé un téraphim sous les couvertures. Il y avait un téraphim, donc, dans la chambre de coucher de David. Si cette statue avait été une idole, pensez-vous que David aurait enduré ça dans sa chambre? Croyez-vous vraiment qu'il aurait supporté ça? Alors non, toute statue n'est pas une idole. Le dictionnaire biblique que j'ai consulté dit que les téraphimes étaient une sorte particulière de statue, de forme humaine, que l'on consultait et dont les réponses avaient valeur d'oracle. Il ne semble pas toutefois qu'on leur rendait directement un culte. Ces téraphimes servaient seulement d'intermédiaires entre le monde visible et invisible de Dieu. Et si ce n'était pas un péché pour le roi David d'avoir une statue, alors ce n'en est pas un davantage pour les catholiques non plus. Faut être juste et équitable en tant que chrétien. Ne condamnons pas ce que la Bible ne condamne pas. Nous voyons donc que décorer une église ou sa maison de symboles sacrés ou de peintures saintes est entièrement légitime, édifiant et même de nature à glorifier le Seigneur. Les statues, là, sont la phobie du protestant. Je comprends qu'il veut plaire au Seigneur, alors il observe scrupuleusement tout ce qu'il lit dans la Bible, mais il ne s'arrête qu'à la lettre du commandement, il ne comprend pas, il ne prend pas le temps d'examiner les Écritures en profondeur. Sa foi n'est pas assez mature. Ses scrupules l'emportent sur le discernement. Quelqu'un m'a dit un jour, « Si vous adorez la statue, c'est de l'idolâtrie. Qu'elle représente quoi que ce soit, faites attention d'adorer des statues. Bon, » Personnellement, je ne connais personne qui adore des statues. Les gens honorent ce que la statue représente, oui, mais adorer une statue, non. Les gens vénèrent, respectent et rendent l'honneur à qui mérite l'honneur, à l'égard de certains saints et saintes qui sont des personnages qui ont marqué le christianisme dans leur époque. Mais adorer là, une statue, là, honnêtement, je ne crois pas qu'il existe encore des gens assez idiots sur la terre pour faire ça de nos jours. Personne n'adore des statues. Avant de dire que les catholiques ou les orthodoxes adorent les statues, pourquoi vous n'allez pas leur demander? Ils vont vous répondre à peu près ceci. Non, j'adore le Seigneur qui est derrière, ce n'est qu'une représentation. Ne mettez pas des péchés sur le dos des gens qui n'en commettent pas. N'inventez pas du mal qui n'existe pas. Alors, frères et sœurs, ne regardons pas comme impur ce que Dieu a déclaré pur. Vous avez faussement appris des réformés que les images représentant la croix, les anges ou les saints étaient de l'idolâtrie. Mais moi, je vous dis, il est juste, bon et bénéfique pour l'édification de s'entourer de toutes ces choses, de tout symbole qui nous rappelle la sainteté, le Christ, le ciel, les hommes de Dieu et des édifiants exemples de vie qu'ils nous ont laissés en imitation. Après tout, est-ce que l'Écriture ne dit pas que le Seigneur viendra en ce jour pour être glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru? 2 Thessaloniciens 1:10. C'est le Seigneur lui-même qui rayonne dans ses saints, ayant été glorifié par leur vie. Par exemple, quand je vois une statue de François d'Assise, je me rappelle sa sainteté, je me rappelle ses enseignements et je suis édifié. Et tout ce qui édifie ne peut pas être de l'idolâtrie, parce que le péché n'édifie pas. Une véritable idole porte au péché, l'encourage et le récompense. Dieu approuve que nous l'admirions à travers ses serviteurs, à travers ses saints. Quand les catholiques ou les orthodoxes se prosternent devant une statue d'un saint, c'est pas pour l'adorer, c'est pour l'honorer, et honorer le Seigneur qui l'a fait. Exode 18:7. Moïse sortit au-devant de son beau-père, et il se prosterna. Est-ce que c'était de l'idolâtrie? Non, c'était une marque de respect. Il faut qu'on soit capable de faire la part des choses, en fin de compte, là, et cesser de condamner des gens à tort et à travers, comme ça, selon l'apparence. Il faut juger selon la justice. Dans la Bible, on voit qu'on peut se prosterner sans adorer. C'est pas un acte d'adoration automatiquement. On peut se prosterner en adorant, mais la Bible fait la distinction. Par exemple, encore, quand Jacob s'est prosterné 7 fois devant son frère Ésaü, est-ce que c'était un acte d'adoration? Non. L'Église catholique n'enseigne pas que nous devions adorer les saints, mais seulement de les honorer pour l'œuvre et l'exemple qu'ils ont laissé derrière eux et que le Seigneur a accompli à travers eux. Hébreux 13:7 nous dit « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez qu'elle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. » C'est à ça que servent les statuts des saints dans les églises catholiques et orthodoxes, à vivifier le souvenir de leur vie et favoriser l'édification personnelle. Les statuts servent à arroser le désir de leur ressembler, de les imiter. Est-ce que Paul ne dit pas au sujet d'Épaphrodite « Honorez de tels hommes » Philippiens 2:19. Et ailleurs, il est écrit « Rendez l'honneur à qui vous devez l'honneur ». On nous dit même que c'est un devoir de le faire. Honorer un homme de Dieu, c'est honorer Dieu qui est derrière. Martin Luther a diabolisé des choses qui ne méritaient pas de l'être. C'est dommage, diaboliser, là. Martin Luther ne faisait que ça. C'était son ministère. Mais diaboliser les autres ne prouve pas que nous sommes spirituels, mais démontre une recherche de vaine gloire qui vient de la chair. Exode 20, verset 3. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Est-ce que Jésus est un autre Dieu? Non. Alors, une image ou une statue de Jésus ne constitue pas une idole. Exode 20, 4 à 5. « Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux et qui sont en bas sur la terre. » Est-ce que le verset se termine ici? Si le verset se terminait ici, alors oui, absolument toute statue de quelque nature que ce soit serait une idole. Mais il ne se termine pas là. En interprétation biblique, il ne faut jamais priver une phrase de son contexte. Ou alors on peut faire dire à la Bible tout ce qu'on veut et tout ce qu'on veut pas. Voici la suite du passage. « Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. » Alors l'idolâtrie n'est pas une question d'image ou de statue, mais une question de service au mal. L'idolâtrie, c'est livrer ses membres au service de tous les péchés. C'est vivre à l'encontre des commandements. Les statues et les images de Jésus et des saints et de Marie et des anges ne portent personne à enfreindre les commandements de Dieu et à se livrer au péché, mais c'est tout le contraire. Alors, on voit dans la Bible que Dieu permet les statues, les représentations et les images quand celles-ci portent à la piété. Toute cette histoire d'idolâtrie chez les cathos n'est basée que sur un paquet de préjugés. L'école protestante a essayé de faire dire à la Bible ce qu'elle ne disait pas. C'est ce qui arrive quand des chrétiens qui ne connaissent rien en théologie et en exégèse biblique essaient de donner un sens à ce qu'ils lisent. Quelques-uns se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. 1 Timothée 1:5. Faites attention à ceux qui ont appris la Bible par cœur. Ce sont ceux qui la connaissent le moins. Il faut savoir de quoi on parle avant d'accuser les gens d'idolâtrie à tort et à travers. Un ancien proverbe hébreu dit « Méfie-toi de l'ignorant qui cite les Écritures ». Méfiez-vous de ceux qui ont appris la Bible par cœur. C'est toujours ceux-là qui la comprennent le moins et qui l'enseignent le plus. C'est un fait que moins on a de connaissances, plus on est pressé de la partager et l'on induit les gens en erreur pour toujours par la suite. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Une idole, c'est un Dieu que nous servons à la place du vrai Dieu. Est-ce que les catholiques ont renié Jésus-Christ pour servir des dieux païens? Est-ce que les catholiques adorent des dieux cananéens? Est-ce que les catholiques ont renié le vrai Dieu? Est-ce qu'il y a des prostituées dans leurs églises? Est-ce que les catholiques et les orthodoxes offrent leurs enfants en sacrifice? Sinon, alors, il n'y a pas d'idolâtrie. Point numéro 4. La relativité de l'idolâtrie chez les premiers chrétiens. Arrivé à l'époque de Paul, l'idolâtrie lourde, là, cananéenne et babylonienne, avait en grande partie disparu de la surface de la terre. Le diable avait perdu de l'ascendance, là. On se rappelle la statue du rêve de Nebuchadnezzar. Le premier royaume du diable s'était fait d'or. Il y avait une grande puissance sur la terre. Ensuite, le royaume suivant, c'était de l'argent. Ensuite, du bronze. Ensuite, du fer. On voit que le diable perd du terrain. Depuis le début de la création, le diable perd du terrain sur la terre. Perd de la force. Pour en revenir à l'idolâtrie, c'est la même chose. L'idolâtrie lourde et puissante, cananéenne et babylonienne, avait presque disparu à l'époque de Paul. Il y avait encore de l'idolâtrie, mais elle était plutôt plus de nature morale que de nature cruelle. Elle était davantage due à l'ignorance qu'à la rébellion consciente. Concernant les cultes idolâtriques de son époque, Paul a dit en Romains 14, 14, « Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi, et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. » Tite 1, 15, « Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. » Quand on regarde les gens avec des lunettes sales, on voit tout le monde sale. Les gens qui ont la conscience scrupuleuse voient des péchés très graves partout. Vous vous rappelez de ce verset? « À partir de ce jour, Saül regarda David de mauvais œil. » Ce n'était pas David qui était mauvais, c'est l'œil de Saül. De la même façon, le protestant regarde le catholique de mauvais œil. On retrouve chez les protestants durs beaucoup de ces couleurs de moucheron. Ils sont impitoyables, intransigeants, sévères, sans aucune pitié. Ils peuvent envoyer 200 millions de catholiques en enfer et ne pas se sentir coupables le moins du monde. Ils ont le cœur souillé, alors tout le monde leur paraît souillé. Mais celui qui condamne les autres sans cause se charge lui-même d'une condamnation. Car le jugement sera sans miséricorde pour celui qui n'a pas fait miséricorde. En 1 Corinthiens 8, 4, Paul dit ceci. « Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a pas d'idoles dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. » Ce qui fait exactement écho à Romains 14, 20, à la vérité, toutes choses sont pures. Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose de grave, entre parenthèses? Aucune idole est quelque chose de grave, entre parenthèses? Nullement. 1 Corinthiens 10, 19 dit aussi, « Autrefois, ne connaissant pas Dieu, nous servions des dieux qui ne le sont pas de leur nature. » Galates 4, 8. Paul souligne que les cultes idolâtriques de son époque étaient sans puissance et qu'elle n'avait de gravité que dans les esprits faibles de ceux qui croyaient qu'elle en possédait encore. Arrivé à l'époque de Paul, les idoles, c'était vraiment plus que c'était à l'époque babylonienne. Les grands cultes démoniaques avaient beaucoup perdu leur puissance. Les démons étaient à peine présents derrière les idoles et dans bien des cas ne l'étaient pas du tout. Paul dit même ici que ces idoles étaient devenues inoffensives en soi et que leur seul pouvoir résidait dans la conscience de ceux qui les regardaient comme en avoir. Paul en est arrivé à reléguer la question de l'idolâtrie à une simple question de conscience et d'avis personnel. 1 Corinthiens 10, 30. « Si je mange avec action de grâce, pourquoi suis-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce ?» Toute statue est sanctifiée par la prière et l'action de grâce. Paul sanctifie ici même les viandes qui avaient été offertes en sacrifice aux véritables idoles. C'est pas incroyable, ça? Alors, à plus forte raison, quand un catholique ou un orthodoxe prie devant une statue de Jésus, celle-ci est-elle sanctifiée aux yeux du Seigneur? Peut-être que ce que tu condamnes comme acte d'idolâtrie chez les catholiques, Dieu le considère comme une action de grâce, parce que Dieu regarde au cœur. Et que ce que tu considères être digne de châtiment, peut-être que Dieu le regarde comme digne de récompense. Alors ayons du discernement. Je répète Galates 4:8. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Autrement dit, l'idolâtrie, là, c'était dans votre tête. Pour les jeunes chrétiens, c'était de l'idolâtrie, parce qu'ils n'avaient pas encore le discernement de ces choses. Mais en réalité, il n'y avait plus rien dans ces cultes-là. Il n'y avait rien dans ces statues-là. L'Église, par son influence, a fait disparaître l'idolâtrie lourde sur la terre tout entière. Quand l'empereur Constantin est devenu chrétien, il a proclamé le christianisme comme religion de l'État. Le monde a assisté au démantèlement de tous les cultes idolâtriques dans tout l'Empire. Ce fut l'une des plus grandes victoires de l'Église sur la terre. Prenons 1 Jean 5, 21. « Petits enfants, gardez-vous des idoles. Remarquez bien quelque chose ici. Jean s'adresse pas à tout le monde. Jean s'adresse aux petits-enfants dans la foi. Au chapitre 2, versets 12-13, Jean parle de trois différents stades de maturité dans le Seigneur. Il s'adresse aux petits-enfants, ensuite aux jeunes gens, ensuite aux pères. Il ne leur dit pas les mêmes choses. Ce sont les petits-enfants qui doivent s'abstenir des idoles, parce qu'ils ne sont pas capables encore de faire la différence entre ce qui est de l'idolâtrie et ce qui n'en est pas. Les petits-enfants à qui Jean parle sont ceux que Paul appelait les frères encore faibles dans la foi, les frères à la conscience faible, en Romains chapitre 14. Pour mieux comprendre, laissez-moi donner un exemple. Moi, j'ai 40 ans de vie chrétienne. Ce ne serait pas un danger pour moi d'aller boire une bière dans un bar quelque part. Ce ne serait pas ma place, là, mais ce ne serait pas un danger pour moi de retourner dans le monde, là. Par contre, si un jeune converti qui vient juste d'échapper à l'ivrognerie et au monde des tavernes et des clubs me voit, moi, aller prendre une bière dans l'un de ces endroits, je peux vraiment être une occasion de chute pour lui. Voyez-vous, c'était le même genre de contexte, le même genre de problème qui existait dans l'Église primitive à propos des temples d'idoles. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens crient à l'idolâtrie à chaque fois qu'ils voient une statue. Ils ont une conscience faible, une conscience scrupuleuse. Ils sont incapables d'aucun discernement. Ce sont des petits-enfants. En réalité, une statue, c'est pas plus dangereux qu'une pomme. Une statue de plâtre, il n'y a rien là-dedans. Du plâtre, c'est rien que du plâtre, là. Il n'y a pas plus de démons dans une statue qu'il y a de démons dans une pomme ou une bonne fontaine, les amis. Durant la période babylonienne, le culte idolâtre consistait à fabriquer des statues à l'image et à la ressemblance de certains démons qui existaient réellement. Et ces démons avaient le pouvoir de prendre possession de leurs adorateurs par des esprits malins. Ces cultes-là, les amis, c'est complètement disparu de la terre. Ça n'existe plus. Et depuis très, très longtemps. Toi qui te nommes chrétien et qui as des regards adultères, depuis combien d'années sers-tu le Dieu de la convoitise qui est en toi? Combien de fois as-tu fait pleurer ta femme, peut-être, en exigeant d'elle des faveurs forcées uniquement pour te satisfaire? Comme tu es énergique à dénoncer de l'idolâtrie chez les cathos, alors que tu ne vois pas la véritable idole que tu sers et qui habite dans le temple de ton pantalon. Voilà, les frères et sœurs, à mon avis, ce qui est bien plus babylonien qu'une statue de Jésus. À l'époque de Paul, la question de l'idolâtrie avait beaucoup évolué. Il semble que Paul n'ait finalement mis les chrétiens en garde contre l'idolâtrie que dans le contexte de l'impudicité et de l'amour de l'argent. En Colossiens 3:5, Paul dit « la cupidité qui est une idolâtrie ». En Éphésiens 5:5, il dit « cupide, c'est-à-dire idolâtre ». L'amour du sexe est également une idolâtrie condamnée par l'apôtre Paul. Philippiens 3:19, leur fin sera la perdition, ils ont pour Dieu leur ventre, c'est-à-dire leur bas ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Luc 16:14, nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon. Les pharisiens, qui étaient avares, écoutaient aussi tout cela, et ils se moquaient de lui. Jésus était en train d'enfoncer les clous de leur cercueil, puis trouvait ça drôle. Quel aveuglement! Quand on considère tous les scandales que les grands évangélistes portent à la vue du monde entier en vivant dans le luxe, la fortune qu'ils ont amassée sur le dos de milliers de chrétiens pauvres, quand on voit la fausse doctrine de la dîme transformée et réadaptée pour exploiter des dizaines de milliers d'églises, et de cette doctrine de démon là, qu'on appelle de la prospérité, là, qui n'enrichit que ceux qui la prêchent et qui dépouille tous ceux qui l'entendent. Quand on voit tous les scandales sexuels et la légalisation de l'homosexualité dans l'Église protestante, je dis qu'il y a mille fois plus d'idolâtrie chez les protestants que chez les catholiques. Ouvrez les yeux. Babylone n'est pas dans le catholicisme, mais dans le protestantisme. Église aux mille péchés, et aux 10 000 divisions. L'Église catholique n'est pas divisée. C'est l'Église protestante qui offre le scandale de division au monde. L'Église catholique est apostolique, c'est-à-dire qu'elle est la descendante directe de l'Église fondée par les apôtres. L'Église protestante est luthérienne, c'est-à-dire basée sur les doctrines d'un homme, Martin Luther, qui était un homme, je m'excuse là, mais c'était un homme grossier, orgueilleux, arrogant, un mangeur et un buveur, un antisémite, un homme violent qui a approuvé et encouragé les tueries pour faire avancer son œuvre. Réveillez-vous! Vous suivez un homme comme ça, là. Ce type-là, là, vous enseigne la Bible, là. Puis c'est son enseignement que vous suivez, là. Voulez-vous vraiment suivre un type comme ça? Ceux qui honorent cet homme comme serviteur de Dieu ne connaissent vraiment pas le personnage, là. Quand on voit la statue d'un saint dans le coin d'une église, moi, je la regarde, là, puis je la trouve bien inoffensive. Elle se tient là puis fait pas mal à personne. La nôtre d'idolâtrie, l'amour du sexe et de l'argent, etc., cette idolâtrie-là est bien plus pernicieuse, odieuse et crapuleuse. Sur Facebook, devant une photo du pape qui embrassait les pieds de Jésus sur une croix, il y a des protestants en foule s'étaient mis à crier à l'idolâtrie et à le traiter de tous les noms, là. Mais, écoutez bien, moi je vois pas le mal à répéter en mémorial une scène d'évangile. À propos d'une pécheresse, Jésus a dit, « Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de me baiser les pieds. » Luc 7, 45. Alors, encore une fois, n'allons pas trop vite en affaires en jugeant les cathos. Soyons justes et équitables. Embrasser les pieds de Jésus sur une croix. N'appelons pas idolâtrie un mouvement spontané qui vient du cœur et qui est un acte d'amour au Seigneur. Quand la femme de mauvaise vie a répandu du parfum sur la tête de Jésus, il est écrit, les disciples, voyant cela, s'indignèrent. Ils dirent, à quoi bon cette perte? On aurait pu vendre le parfum, etc. Jésus, s'en étant aperçu, leur dit, pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard. Ce que Jésus a déclaré bon, ne le déclarons pas comme mauvais. Jésus sait reconnaître l'amour du cœur derrière nos louanges imparfaites. Ne condamnons pas à la légère les expressions d'amour des catholiques envers le Seigneur. Ils ont leur façon de servir le Seigneur, on a la nôtre. Quand un catho embrasse une croix, c'est Jésus qui l'embrasse dans son cœur. Et Dieu regarde au cœur. C'est pas difficile à comprendre, ça. Jésus n'a pas réprimandé la pécheresse qui est venue répandre tout un vase de parfum sur sa tête. Si la conscience du Christ avait été scrupuleuse comme la nôtre, Jésus aurait dit « Mais qu'est-ce que tu fais? Tu sais pas que les libations de parfum s'apparentent aux libations des cultes païens arrière de moi ne m'associent pas au culte idolâtrique? » Mais non, Jésus ne l'a pas réprimandé, il l'a laissé faire. Il a regardé à son cœur. Le Seigneur a tout de suite donné valeur d'amour à son geste, ce qui sanctifiait tout. Quand on est follement amoureux, on fait des choses folles pour le démontrer. Alors quand vous verrez un catholique embrasser une croix, ou les pieds de Jésus sur une croix, ou je ne sais pas quoi d'autre, pourquoi vous dites pas gloire à Dieu? Gloire à Dieu d'avoir placé l'amour de Dieu dans son cœur. Ainsi, ne nous jugeons donc plus les uns les autres. Romains 14, 13. Reconnaissons que c'est nous qui avons le cœur dur et le jugement facile. Le protestant dur a la gâchette sensible. C'est lui qui a la jalousie, la propre justice et les dents qui grincent. Si vous avez du discernement, vous jugerez justement. J'en arrive à mon point numéro 6. Je veux parler de l'art sacré. Beaucoup de chrétiens ne croient pas en l'art sacré. Ils crient à l'idolâtrie à chaque fois qu'ils voient une image ou une peinture de Jésus. C'est encore une dérive qui est née de la phobie d'une conscience scrupuleuse. Si ce n'était pas un péché pour les disciples de regarder la figure de Jésus, ce n'en est pas un davantage de le regarder en peinture aujourd'hui. Il y a de très belles peintures qui représentent Jésus conduisant un troupeau de brebis, par exemple. J'ai toujours trouvé ça très édifiant parce que j'ai un cœur de pasteur. Pour moi, c'est honorer le Seigneur que de placer sur un mur une peinture qui représente l'amour et la compassion de Jésus pour les pécheurs. Il est le bon berger. Peut-être pour toi, il s'agit d'idolâtrie, mais pour moi, il s'agit d'une grande action de grâce. Au VIe siècle, Grégoire le Grand a dit « Les œuvres d'art sont la Bible de ceux qui ne savent pas lire ». C'est incalculable le nombre de personnes qui se sont converties ou qui ont connu même un réveil spirituel grâce à une peinture ou une sculpture. Moi, quand j'étais petit, j'avais 4 ans environ, mon frère me ramenait des images de son collège. J'étais absolument fasciné là, de voir ça, Jésus en croix, de voir l'amour de Jésus. Je comprenais ça, j'avais compris ça. Selon l'école protestante, les peintures de Jésus qui montrent des scènes d'évangile sont encore pure idolâtrie punissable de l'enfer éternel. C'est d'une étroitesse d'esprit qui se passe de commentaires là. À l'époque de la Réforme, on entrait dans les églises et on recouvrait toutes les peintures qu'il y avait sur les murs d'une épaisse couche de peinture blanche. On brisait toutes les statues à coups de grands marteaux et on traînait même les autels dehors pour les détruire. Les gens se tenaient là, puis étaient tout attristés du spectacle et dans une profonde consternation de voir désacraliser leurs églises de pareille sorte. C'est ce que la Réforme a fait. Quand on parle de fausse spiritualité, mes amis, là, c'en est un très bel exemple. Faites une recherche sur le net et regardez toutes les fresques dans les catacombes de Rome, faites par des premiers chrétiens. On y retrouve des croix, des peintures de Marie, de Jésus, de toutes sortes de choses. Est-ce que tous ces chrétiens qui sont morts martyrs pour leur foi vont aller en enfer pour idolâtrie? Soyons sérieux! Cette histoire de voir de l'idolâtrie partout, c'est devenu mais une vraie folie. Il faut cesser là, avec cette phobie de voir de l'idolâtrie partout où il n'y en a pas. Restons bibliques. N'allons pas au-delà des Écritures pour leur donner aujourd'hui un sens que Dieu n'a jamais entendu leur donner. Pendant des siècles, au Moyen Âge, l'art religieux, c'est-à-dire les peintures, était la seule Bible que la populace sans instruction pouvait comprendre. Nombreux sont ceux qui se sont convertis au Seigneur grâce à ces images saintes tirées des Évangiles. Aux États-Unis, il y a 2 ou 3 siècles, les esclaves noirs illettrés se convertissaient en regardant les images de Jésus qu'ils trouvaient dans les Bibles. Puis Dieu a accordé de véritables réveils spirituels au milieu d'eux par le moyen de ces images. Comment Dieu pourrait-il accorder un réveil spirituel au moyen de l'idolâtrie? Répondez-moi. Quand je regarde une peinture de Jésus qui lave les pieds de ses disciples, je suis édifié. Quand je regarde une peinture de Jésus qui tient une brebis dans ses bras et la regarde avec amour, je suis édifié. Ces peintures font naître en moi des sentiments qui me poussent à l'aimer, à l'adorer, et à vouloir lui ressembler. N'essayez pas de me dire que les images de Jésus viennent du diable. Le diable n'édifie personne et il ne glorifie pas la personne de Jésus. C'est le propre des petits esprits d'être scandalisés des petites choses. C'est par étroitesse d'esprit qu'ils ont la conscience scrupuleuse à l'excès. Motivés par la peur du péché, ils coulent tous les moucherons, mais ils se privent d'un chameau de bénédiction. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Tout est péché pour ceux qui sont encore au lait et remplis de préjugés. On a tous des photos ou des objets chez soi qui nous rappellent les membres de notre famille. C'est pas de l'idolâtrie, c'est de l'amour. Quand on aime quelque chose, on aime s'entourer de symboles, de choses qui nous le rappellent et nous en gardent la pensée. Il faut que les chrétiens apprennent à faire la part des choses et cessent de condamner tout le monde. Votre intention est peut-être de plaire au Seigneur, mais votre zèle en est un qui est très mal éclairé. Les scrupules de la peur du péché et l'étroitesse d'esprit est tellement un mauvais témoignage dans le monde. Nous repoussons les gens de venir au Seigneur et de venir dans notre Église. Votre religion de scrupuleux, les gens en ont peur, c'est-tu clair? Ils ont peur d'être obligés de vous ressembler. C'est pour ça qu'ils vous fuient. Faites le ménage dans vos croyances superstitieuses, parce que vous fermez vous-même la porte du royaume de Dieu aux gens. Ils ont peur de vos doctrines bizarres. Le temple de Salomon était rempli à ras-bord de symboles et de sculptures symboliques. En 1 Rois 6:23-24, Salomon fit dans le sanctuaire 2 chérubins de bois d'olivier sauvage ayant 10 coudées de hauteur. En 1 Rois 6:29-32, il fit sculpter sur tout le pourtour des murs de la maison, à l'intérieur et à l'extérieur, des chérubins, des palmes et des fleurs épanouies. Il fit à l'entrée du sanctuaire une porte à deux battants. Les deux battants étaient de bois d'olivier sauvage. Il y fit sculpter des chérubins, des palmes et des fleurs épanouies, et il les couvrit d'or. Il étendit aussi l'or sur les chérubins et sur les palmes. Salomon a fait des sculptures d'anges. C'est pas supposé d'être péché, ça? Non, c'est pas péché. Nous le savons maintenant. 1 Roi 7, 13, 14. Le roi Salomon fit venir de Tyr Hiram, qui travaillait l'airain. Hiram était rempli de sagesse, d'intelligence et de savoir pour faire toutes sortes d'ouvrages d'airain. L'art sacré et les artistes. Voici le passage parallèle en 2 Chroniques 2, 13, 14. Je t'envoie donc un homme habile et intelligent, Hiram, fils d'une femme d'entre les fils de Dan et d'un père tyrien. Il est habile pour les ouvrages en or et en argent, en airain et en fer, en pierre et en bois, et pour toute espèce de sculpture et d'objet d'art. L'art sacré, mes amis, existe bel et bien. Et loin d'être condamné par le Seigneur, c'est lui-même qui l'ordonne. C'est lui-même qui envoie Hiram vers Salomon. Dieu utilise l'art sacré pour embellir son temple. En 1 Roi 7, 29, sur les panneaux qui étaient entre les montants, il y avait des lions, des bœufs et des chérubins, et sur les montants, au-dessus comme au-dessous des lions et des bœufs, il y avait des ornements. Frères et sœurs, qui a donné aux hommes le don de peindre magnifiquement? Le don de peindre vient-il de Dieu ou du diable? Celui qui peint une image du Christ commet-il un acte d'idolâtrie ou une œuvre qui le glorifie? On le voit, selon la Bible, l'art sacré existe et elle glorifie le Seigneur. Autre passage, Exode 30, 1 à 6. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Sache que j'ai choisi Bethsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence, de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et l'airain, de graver les pierres, à enchâsser, de travailler le bois, d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que j'ai ordonné. » Plus tard, Moïse redit la chose au peuple en ses propres mots. Moïse dit aux enfants d'Israël, « Sachez que l'Éternel a choisi Bethsalel, fils d'Uri. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Il l'a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent, l'airain, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois, écoutez bien, et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. Il les a remplis d'intelligence pour exécuter tous les ouvrages de sculpture et d'art. » Le passage se trouvait en Exode 35, 30 à 35. Alors, frères et sœurs, l'art sacré, loin d'être du diable, a été commandé par le Seigneur. La preuve est faite que l'art sacré existe. Alors, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regardez pas comme idolâtrie. Si l'art sacré était de l'idolâtrie, Dieu devrait lui-même se jeter en enfer. Alors qu'on se le dise une fois pour toutes, l'art sacré n'est pas de l'idolâtrie. C'est au contraire une façon magnifique de glorifier le Seigneur. Frères et sœurs, moi je vois tellement, mais tellement d'ignorance dans le protestantisme, tellement de préjugés, tellement de faux scrupules. Il faut que ça change, il faut que les choses changent. Il faut que les esprits s'élèvent et acquièrent du discernement. Dieu a sanctifié l'art sacré dès l'époque de Moïse. Et aujourd'hui, 3500 ans plus tard, on est encore à croire qu'il s'agit d'idolâtrie. On condamne les images de Jésus. Comme c'est ridicule, mais quand est-ce qu'on va apprendre? L'art sacré, ça rend le cœur sensible aux choses divines. Si ça accomplit un extraordinaire travail d'édification intérieure. C'est comme la musique. La musique, c'est quelque chose qui peut grandement nous rapprocher de Dieu. Ce que les oreilles entendent, ce que les yeux voient, nous rapproche du Seigneur. Tout ce qui fait penser au Seigneur, tout ce qui nous rappelle le Seigneur, vient du Seigneur. Le talent de peindre vient de Dieu, tout comme le talent de jouer d'un instrument. Les représentations du Seigneur glorifient toujours le Seigneur. Les symboles ne sont pas des idoles. Une image vaut 10 000 mots. Une image sainte est une prédication en soi. La peinture de Jésus jetant un regard compatissant sur la brebis retrouvée est une prédication de l'Évangile. Le diable déteste tellement le Christ que s'il en avait le pouvoir, il arracherait toutes les peintures, toutes les images et détruirait tout ça, tout ce qui le représente. Le diable grince des dents quand il voit une croix ou une image de Jésus. S'il n'en tenait qu'à lui, il ferait éradiquer tous les symboles qui font penser au Christ. Le diable est animé d'une haine farouche de tout ce qui rappelle le nom de Jésus. Et il se fait malheureusement aider dans son travail. Il séduit des esprits simples, mal instruits chez les chrétiens. Il leur inspire de participer à sa croisade anti-Christ, qui est de faire disparaître tout ce qui rappelle le nom de Jésus sur la terre sous le faux prétexte d'idolâtrie. Et ces pauvres chrétiens le suivent et lui viennent en aide comme des idiots. Les premiers chrétiens peignaient déjà des fresques de Jésus dans les catacombes de Rome. Ils n'avaient pas le scrupule qu'on a aujourd'hui. Toute cette histoire d'idolâtrie maladive nous est venue de Martin Luther au XVIe siècle, qui a fait toute une montagne et tout un drame à propos des peintures qu'il y avait dans les églises. Je vous le redis, cet homme-là était animé d'une haine anti-catholique. Il n'avait pas le souci vraiment de comprendre ce que la Bible disait ou ne disait pas. Moi, je vous dis, ne soyez pas dupes. Dissociez-vous de tous ces gens qui sont étroits d'esprit. Jacques 2,12 dit « Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Ne vous laissez pas lier par des préceptes étroits. Au contraire, proclamez votre liberté en Christ. Ne vous laissez pas mettre sous le joug de péchés imaginaires. S'il avait été de la volonté de Dieu de demeurer sans visage, il ne se serait pas incarné aux yeux de tous. Jésus est le visage de Dieu. À l'époque mosaïque, c'était de nécessité de ne pas faire de représentation de Dieu. Il fallait qu'il soit dissocié des autres faux dieux. Mais la révélation de Dieu en Christ a tout changé. Christ est le visage de Dieu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Dieu ayant maintenant un visage, il n'est donc plus interdit de le représenter, car ceux qui ont reçu l'Esprit n'adorent pas l'image, mais le vrai Christ du ciel qui est derrière l'image. D'ailleurs, le petit catéchisme stipule clairement ceci. L'on n'adore pas les images, on ne fait que les honorer. Alors ne dites pas que les cathos adorent les images, ce n'est pas vrai. Si vous le dites, ce sera de la calomnie. Et prenant toutes ces choses en compte, et ayant longuement étudié et pesé la question, le second concile de Nicée, en octobre 787, a déclaré la chose suivante. Comme pour la représentation de la précieuse et vivifiante croix qu'on place les vénérables et saintes images mosaïques ou œuvres faites de toute autre matière dans les saintes églises de Dieu, sur des objets ou les vêtements sacrés, les murs et des tableaux, dans les maisons et les chemins, l'image de notre Seigneur Dieu, Dieu et Sauveur Jésus-Christ, celle de tous les saints et des justes. En effet, plus on les voit, grâce à leur représentation et image, plus, en contemplant leur image, on est amené à se rappeler et à aimer les modèles originaux qui sont derrière, et à leur donner salutation et respectueuse vénération. Non pas l'adoration véritable, propre à notre foi, qui convient à la nature divine seule, mais comme on le fait pour la représentation de la glorieuse croix, pour les saints évangiles et tous les autres objets sacrés. Car l'honneur rendu aux images s'en va au modèle original, et celui qui vénère l'image vénère en elle la personne de celui qu'elle représente. » Fin de citation. Arrivé à ce point-ci, je désire faire une prière. Je te rends grâce, Seigneur, de ce que tu nous as donné l'art sacré, qui nous rappelle tout ton ministère sur la terre, ta vie, ton sacrifice et ta résurrection. Tu nous édifies par tant de beauté et tant de moyens. Je te rends grâce et gloire pour ce don que le diable déteste tant et cherche à avilir. Je te prie, pardonne à ceux qui ont pris parti avec lui à cause de l'ignorance qui est en eux. Amen. Parlons de Marie maintenant. Il y a quelqu'un qui me lance ceci un jour. Dieu est saint et ne partagera pas sa gloire avec des démons qui se cachent derrière le nom de Marie pour emmener le peuple à l'idolâtrie. Savez-vous que le livre de Jérémie, chapitre 7, chapitre 10, chapitre 44, parle de la reine du ciel qui est Marie? OK. Ce genre de discours-là, c'est très représentatif du raisonnement protestant. Prenons le temps d'examiner tout ça. Premièrement, dire qu'il y a des démons qui se cachent derrière le nom de Marie, c'est vraiment n'importe quoi. Frères et sœurs, on parle ici de la mère du Christ. On ne parle pas d'une putain à quatre étoiles, là. Dire qu'il y a des démons derrière Marie, c'est blasphématoire. C'est sacrilège. Là où il y avait des démons dans les évangiles, il y avait des démonstrations de colère, de fureur, de rage, de folie suicidaire et des prophéties antichrist. Ça, c'est ce que la Bible nous montre. Là où il n'y a pas de démonstration démoniaque, il n'y a pas de démons. Quand il y avait des démons quelque part dans les évangiles, ils se manifestaient d'une façon ou d'une autre, de manière à ce qu'on les voit. Alors, mes amis, s'il y a des démons derrière le nom de Marie, prouvez-le. Sinon, taisez-vous au lieu de dire des idioties sur le dos de la mère de notre Sauveur. Deuxièmement, concernant la reine du ciel dont Jérémie a parlé, disons d'abord que le prophète Jérémie est venu 600 ans avant la naissance du Christ, donc il ne pouvait pas s'agir de Marie, hein? Vous êtes d'accord avec moi? Quelquefois, les arguments protestants, c'est vraiment du gros n'importe quoi. La reine du ciel dont Jérémie a parlé était une idole, une déesse que l'on adorait. Elle a porté plusieurs noms. Chez les Babyloniens, on l'appelait Sémiramis. Chez les Grecs, c'était la déesse Diane. Chez les Romains, c'était Vénus. Maintenant, de quel droit le protestant ose-t-il associer une fausse déesse de l'Antiquité à la mère de notre Sauveur et lui attribuer une même valeur d'idole? Encore une fois, je trouve personnellement que c'est blasphématoire, là, que ça n'a aucun bon sens. La Bible n'a jamais sali le nom de Marie. Au contraire, l'Esprit-Saint a dit « Désormais, toutes les générations me diront bienheureuse ». C'est-à-dire que son nom serait laissé en bénédiction et prononcé avec vénération et placé avec honneur pour toutes les générations à venir. C'est quand même incroyable. Puis c'est l'Église catholique qui a accompli cette prophétie invraisemblable. La Bible ne dit pas qu'il y a des démons derrière Marie. J'ai davantage l'impression qu'il se cache des démons sous la langue de ceux qui salissent son nom. Pour les pharisiens, tous les arguments tordus étaient bons pour arriver à prendre le Christ en défaut. Ils ne cherchaient pas la vérité, ils ne cherchaient pas à comprendre. Ils cherchaient seulement à détruire la réputation du Christ par tous les moyens. Les protestants sont animés du même esprit haineux envers les catholiques. Le but à atteindre par tous les moyens, c'est de détruire la réputation de l'Église. Martin Luther ne cherchait pas la vérité. Il voulait la peau de l'Église sur un mur. Et aujourd'hui, ses descendants lui ressemblent fidèlement. Maintenant, au siècle dernier, l'Église s'est tirée dans le pied puis s'est aliénée le respect des autres Églises en proclamant Marie co-rédemptrice avec Christ, en la couronnant reine du ciel, dispensatrice de toutes les grâces, etc. À mon avis, l'Église a dérapé sur ce truc-là. Toute cette emphase autour de Marie est devenue un véritable culte de personnalité. D'ailleurs, on ne s'en cache pas, on connaît tous l'expression « le culte marial ». Mais l'Église ne dit pas d'adorer Marie, n'a jamais dit d'adorer Marie. Que ce soit bien clair, il s'agit seulement de lui rendre honneur. Mais on comprendra que plusieurs ne font pas la différence et accordent une importance exagérée à la personne de Marie, ce qui finit par faire de l'ombre à Jésus un peu. À quelque part, le danger, c'est que ce qu'on donne à Marie, on l'enlève un peu au Christ. Maintenant, entendons-nous bien. Malgré tout ça, on ne peut pas dire qu'il s'agisse d'idolâtrie au sens biblique du terme. L'idolâtrie biblique, je le répète encore, implique un rejet moral de Dieu, un rejet de sa sainteté et de ses lois pour embrasser des lois de péché. Et de ça, le culte marial n'est absolument pas coupable. Au contraire, le culte marial prône toutes les valeurs morales chrétiennes, la sainteté de mœurs, la chasteté, la douceur et la miséricorde divine. Le culte marial conserve toutes les valeurs évangéliques. La véritable idolâtrie, au contraire, va à l'encontre des valeurs évangéliques. L'idolâtrie marche en ennemi de la croix de Christ, alors que Marie ne pousse jamais au péché, mais à toutes les vertus. Elle n'éloigne jamais personne de Jésus, mais au contraire, pointe toujours vers lui. Alors encore une fois, il faut donner à César ce qui appartient à César, hein, et à Dieu ce qui appartient à Dieu. On ne peut pas dire que le culte marial produit des mauvaises choses, produit des péchés, parce que ce n'est pas le cas. Alors on ne peut pas parler d'idolâtrie. Marie n'égare pas loin du Christ, mais au contraire, elle ramène toujours au Christ et à l'Évangile. Le culte marial est donc pas un culte idolâtrique, c'est seulement un culte de personnalité, ce qui demeure très bénin comme erreur. On est tous des êtres humains, quelquefois on exagère un peu sur un point ou sur un autre, mais ça ne fait pas de nous des personnes méchantes pour autant, pas vrai? Alors accordons aux catholiques le bénéfice de la liberté de doctrine comme ils nous l'accordent eux-mêmes, hein? Vivre et laisser vivre, croire et laisser croire. Tant que c'est pas méchant, tant que c'est pas mauvais, tant que ça s'égare pas loin de l'Évangile, tant que ça porte pas au péché, c'est correct. Faisons la paix avec ça. 1 Corinthiens 12, 3. Paul établit une règle par laquelle on peut savoir si une personne vient de Dieu ou non. Il dit, « C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par l'Esprit-Saint. À aucun moment et à nul endroit, Marie n'a dit que le nom de Jésus était anathème. Au contraire, Marie élève toujours le nom de Jésus et pointe toujours vers l'Évangile de son Fils. Alors, le culte marial ne peut pas être classé comme culte idolâtrique. Si le culte marial est une erreur, il n'est quand même pas un péché passible d'enfer éternel. Chaque Église et chaque chrétien possède des doctrines propres qui sont discutables. Alors, accordons-nous un peu de latitude. Bon, point numéro 8, le symbole de la croix. Les démons tremblent au nom de Jésus. Ils tremblent de rage et de haine. Ils ont la colère quand ils voient le signe du Fils de l'homme. Je parle de la croix. Les démons détestent Jésus, même en peinture. Il est tellement triste de voir tant de chrétiens entrer dans cette haine des symboles divins et de ressembler à leur ennemi. Jésus a parlé lui-même du signe du Fils de l'homme qui apparaîtra dans le ciel. Matthieu 24, 30. Qu'est-ce que vous pensez que c'est, ce signe-là? Que la croix soit le symbole du Christ. Croyants et non-croyants de la terre entière le reconnaissent. C'est universellement connu et reconnu. À son retour, les hommes vont voir la croix dans le ciel, puis tous ses ennemis vont trembler. Le signe de la croix, c'est l'abrégé de toute la doctrine chrétienne. C'est pour ça que le diable déteste tant. La croix est le symbole de foi. Il n'y a pas plus d'idolâtrie à regarder une croix sur un mur qu'il n'y en avait à regarder le serpent d'airain au temps de Moïse. Il n'est pas contre l'esprit chrétien de porter une croix. Au contraire, s'identifier ouvertement comme chrétien est au contraire un acte courageux par lequel le chrétien catholique confesse Jésus-Christ comme Seigneur. Moi, je connais un paquet de chrétiens évangéliques qui cachent leur foi au travail pour ne pas être persécutés. Les jambes leur tremblent comme de la guenille quand on les découvre et qu'on leur demande s'ils sont chrétiens. Comment vous trouvez ça? Un auteur nommé Debrant a écrit ceci. « Les cœurs vraiment chrétiens vénèrent avec un souverain respect la croix du Sauveur qui est le gage le plus touchant de son amour. En effet, qu'est-ce que la croix? C'est le lit nuptial sur lequel il enfanta ses élus. La croix, c'est tout le christianisme. Que dit cette croix à nos cœurs? Ne les pénètre-t-elle pas du plus tendre comme du plus reconnaissant amour? Notre gloire est en Jésus crucifié, ô croix précieuse, depuis tant de siècles, l'objet de la vénération des fidèles. Vous êtes ma plus douce consolation. Fin de citation. Depuis plusieurs années, là, j'ai placé une très vieille croix sur le mur de ma chambre, avec le Christ crucifié dessus. Là. Et je regarde cette croix pendant que je prie. Il me serait impossible de décrire tous les bienfaits spirituels que cette croix m'a apportés. Je regarde toutes les souffrances du Seigneur et chacune d'elles devient une exhortation à me courber comme lui à la volonté de Dieu, à l'imiter dans son obéissance, dans son acceptation, dans son amour. L'idolâtrie ne pourrait jamais me porter à faire autant de réflexions spirituelles et m'aider à augmenter mon amour pour le Seigneur. Alors avant de condamner quelque chose, frères et sœurs, regardez-en d'abord les fruits. Un mauvais arbre ne porte pas de bons fruits. Pour moi, regarder cette croix au moment de la prière m'a apporté beaucoup d'édification. À la rigueur, il y a certains chrétiens qui vont accepter une croix vide, mais pas le Christ dessus. Quelqu'un qui me dit sur Facebook une fois, « Le Christ est ressuscité, il n'est plus sur la croix ça nous rappelle la mort du Seigneur, et nous ne devons plus nous rappeler de sa mort, mais de sa résurrection. » Qu'est-ce que vous pensez de cet argument? Comme si se rappeler de la mort du Seigneur, c'était quelque chose de mal. Le protestant pur et dur emploie des arguments tout à fait contradictoires et tombe par terre devant les Écritures. C'est super bien là, d'honorer sa résurrection, mais c'est principalement de sa mort que le Seigneur a voulu qu'on se souvienne. Regardez la Sainte Cène. Après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur. » Une autre traduction, la traduction Knox a rendu « Vous prêchez la mort du Seigneur. » La traduction Taylor a rendu « Vous redites le message de la mort du Seigneur. » Alors la Sainte Cène est un mémorial de sa mort. Si c'était mal de se rappeler de sa mort, pourquoi le Seigneur nous dit de le faire? De même, chaque fois que je regarde ma croix là, avec le Christ crucifié dessus, je me rappelle sa mort et son amour. Venez pas me parler d'idolâtrie, c'est n'importe quoi, là. Pourquoi est-ce que ça vous scandalise de voir le Christ crucifié sur une croix? Est-ce que c'est possible qu'il y ait encore en vous quelque chose de rebelle au Seigneur? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Un crucifix avec le Christ crucifié est le résumé de tout l'Évangile. C'est une véritable prédication du salut. Quand je regarde une croix avec le Christ dessus, je vois Jean 3,16. Ne vous rangez pas en ennemi de la croix, frères et sœurs. Ne courez pas le risque de combattre contre Dieu. Beaucoup de chrétiens ont la haine du symbole de la croix. C'est à se demander dans quel camp ils sont. Moi, je peux vous dire, ceux qui ne portent pas la croix dans leur cou, souvent, ils ne la portent pas non plus dans leur vie. Quand tu ne veux pas être identifié comme chrétien, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Je pense que lorsqu'une personne est ennemie de ce symbole, c'est parce qu'elle en est l'ennemi dans son cœur quelque part. Le docteur en lettres, Francis Trochu, historien de la période de la Révolution en France, a dit qu'on faisait passer des milliers de gens innocents à la guillotine. C'est ce qui arrive quand le diable s'empare d'un gouvernement. Il raconte que par un arrêt en 1793, on prescrit d'enlever tous les signes religieux qui se rencontrent sur les routes, les places, les édifices, dans le but d'effacer la trace de Dieu, entre guillemets. C'est ce que la réforme luthérienne a fait. C'est ce que le communiste a fait. C'est ce que l'islam fait, faire disparaître tous les symboles religieux. Alors les chrétiens qui détestent le signe de la croix ne savent vraiment pas de quel esprit ils sont animés, là. Les symboles religieux chrétiens sont une richesse et une bénédiction sur la terre. Incidemment, un jour en Israël, le Seigneur a voulu punir son peuple et une partie de ce châtiment consistait justement à lui enlever tous ses symboles. En Osée 3:4, écoutez bien. « car les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statue, sans éphod, sans téraphim. Dieu leur fait la menace de leur enlever les statues saintes, en punition de leur état rétrograde. En d'autres mots, vous avez rejeté le Seigneur, alors vous n'êtes plus digne d'avoir des représentations des choses saintes. Osée, en d'autres mots, leur a dit, « Vous ne voulez pas du Seigneur, alors le Seigneur va vous enlever jusqu'aux moindres choses capables de vous rappeler de lui. » C'est comme une femme qui apprend que son mari l'a trompée. Hein? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle déchire toutes les photos de noces, elle part en amenant tous les meubles, puis même jusqu'aux carrés de glace qui sont dans le réfrigérateur. C'est un peu ce que Dieu a fait ici. Colossiens 2, 14, 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. On comprend que le diable déteste, abhorre et exècre la croix au plus haut point, parce que c'est le symbole de sa défaite irrémédiable. C'est le symbole de sa honte. La croix, c'est le symbole de son humiliation. Alors, quand je vois des chrétiens prendre position contre le fait de porter une croix, je dis qu'ils ont adopté les sentiments du diable. De grâce, ne prêtez pas vos sentiments à l'ennemi. Ayez plutôt les sentiments qui sont en Jésus-Christ. Je suis incapable, moi, d'imaginer le Christ entrer dans une église et se mettre à arracher toutes les croix qui sont sur les murs. Et vous? La croix est le symbole du salut et le signe de la victoire de Dieu sur notre ennemi. C'est aussi le signe de notre victoire et c'est la preuve de l'amour de Dieu pour ce monde. C'est également le signe de notre appartenance, de notre participation à l'Évangile. La croix, c'est l'écusson de notre armure, la bannière au-dessus de nos têtes et l'emblème de notre armée. La croix que l'on porte autour de notre cou est le signe de l'autorité dont on dépend. Porter une croix visible est une confession de foi publique. Ceux qui portent la croix honorent le Seigneur. Cependant, beaucoup de chrétiens outragent et ridiculisent cette pratique. Encore une fois, de quel esprit sont-ils animés? Ce sont les esprits mauvais qui leur inspirent cette haine. Ils entrent dans la haine des esprits mauvais. Ils ne réfléchissent pas un instant à ce qu'ils font. Alors je vous supplie, là, au nom de Dieu, ne participez pas au péché de l'ennemi. Ne participez pas au péché des démons. N'allez pas faire équipe avec eux dans leur campagne de dénigrement du Christ. C'est pas pour rien que l'islam ne tolère aucun symbole de la croix. C'est pas sans raison que nos gouvernements mondains le font enlever des écoles et des endroits publics. Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple, Jérémie 23, 27. Beaucoup de chrétiens sont entrés d'eux-mêmes dans cette guerre contre la croix et pêchent contre l'Église en faisant ça. Ils font reculer le royaume de Dieu au lieu de l'avancer. Réalisez ce que vous faites. « Ah, ben, porter une croix, c'est de l'idolâtrie. » Avez-vous entendu ça? Moi, j'entends ça tout le temps. C'est n'importe quoi. Montrez-moi ça dans la Bible, que le signe de la croix, c'est de l'idolâtrie. Moi, je vous dis, si vous aimez le Seigneur, ne vous laissez pas embarquer dans tous ces raisonnements protestants. Honorer la croix, c'est honorer celui qui est mort dessus. La pensée protestante est tellement illogique quelquefois. Là. Ces gens-là se pensent tellement bibliques, alors qu'ils sont tellement perdus. Si vous ne portez pas de croix, c'est votre choix, hein, c'est pas une obligation. Mais au moins, si vous n'en portez pas, ne diabolisez pas ceux qui le font. Parce que c'est le propre des lâches que de condamner chez les autres les choses qu'ils n'ont pas le courage de pratiquer eux-mêmes. Vous condamnez le catholique parce qu'il est plus courageux que vous et parce qu'il vous est une réprimande vivante. Mettre une croix sur un mur dans votre maison, c'est faire honneur au Seigneur. C'est une façon de reconnaître son autorité sur vous et de consacrer votre maison. C'est également une façon de confesser que nous sommes chrétiens devant tous ceux qui vont y entrer dans cette maison. Chez les premiers chrétiens, la croix a toujours été honorée. La croix n'a jamais été considérée comme un symbole diabolique. C'est ridicule. Vous n'avez qu'à parcourir les nombreuses fresques et peintures faites dans les catacombes. C'est très facile de faire une recherche sur Internet et de regarder tout ça. Je ne crois pas que ces chers frères étaient des idolâtres qui sont allés en enfer après avoir donné leur vie dans l'arène. Si vous condamnez le catholique parce qu'il porte une croix, vous commettez un grand péché. N'allez pas vous croire supérieur. Une autre protestante, très militante contre les cathos, me dit un jour « Je dirais juste attention aux idolâtries, et ce péché, ça peut être dans le sens que l'on fait une image taillée de Jésus sur la croix. » Pense, quoi. Comment vous trouvez ça un argument comme ça? Est-ce que Jésus est un Dieu étranger? Est-ce que Jésus nous conduit dans la prostitution, le meurtre, la magie, la cupidité? Des raisonnements comme ça, ça montre à quel point certains chrétiens peuvent être à côté de la traque. Que Jésus soit une idole, ça devient complètement ridicule. J'en reviens pas de voir l'ignorance, les scrupules stupides, la superstition qu'il y a chez les chrétiens protestants. Plaise à Dieu que Jésus devienne votre idole. Plaise à Dieu que Jésus devienne une idole pour le monde entier. Alors, toute cette histoire de voir de l'idolâtrie partout sur les murs et de condamner tout le monde, là, tous les catholiques, là, ça commence à bien faire, là. Réalisons que c'est nous qui avons une conscience trop scrupuleuse et une compréhension trop étroite du premier commandement. Ayons du respect pour les catholiques. Ils ne sont pas les ennemis de Dieu ni les vôtres. Si vous voulez partir en croisade, là, partez en croisade contre l'islam. Ils sont là les vrais ennemis du christianisme. Les catholiques sont doux comme des moutons, puis se défendent jamais quand on leur tape dessus. Ça prend pas beaucoup de courage pour parler en mal d'eux. Si vous voulez mesurer votre courage, allez taper sur l'islam, là, comme vous tapez sur les catholiques. Là, vous avez une religion totalement ennemie du christianisme. C'est facile de faire les grands héros de la vérité biblique devant les catholiques et d'ouvrir une grande bouche puis de les condamner. Si vous voulez m'impressionner, là, allez faire la même chose contre les musulmans. On va voir si vous êtes encore brave. On va voir si vous avez du courage. On va voir si vous avez encore autant à cœur la vérité biblique. Je voudrais terminer avec ce verset. Galates 3.1. Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Je vous laisse avec ça. Je laisse tout ça à votre réflexion. Je pense avoir fait le tour. J'espère que toute la question d'idolâtrie est beaucoup plus claire dans vos esprits maintenant. Alors, ne condamnons plus des choses que Dieu n'a pas condamnées. Ne condamnons plus des gens que Dieu n'a pas condamnés. Rappelons-nous que nous aurons à rendre compte de toute parole vaine sortie de nos bouches. Amen.